Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui font donc leur retour après cette pause de fin d'année. Et pour cette première émission de l'année, on va se livrer, comme nous l'avons fait déjà les saisons précédentes, un regard et un panorama sur l'économie en général et l'économie en calédonienne en particulier. Nous allons le faire en compagnie du directeur de l'IOM, Yann Caron. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cette invitation pour se livrer à cet exercice un peu particulier. Alors évidemment, avant de parler stricto sensu de la situation économique en Nouvelle-Calédonie, on va dire un petit mot de la situation globale mondiale, parce qu'on sait que les marchés sont toujours bouleversés, que les économies sont toujours tendues. On se rappelle qu'il y a eu la crise Covid, qu'il y a eu la guerre en Ukraine, qu'il y a maintenant la guerre au Proche-Orient, et que tout ça continue à peser sur les économies mondiales. On parle beaucoup d'inflation, je crois que ça touche beaucoup de pays dans le monde. On parle beaucoup de hausse des taux de crédit, ça touche aussi beaucoup de pays dans le monde. Bref, on n'est pas dans une situation économique très sereine au niveau international.
Non, nous restons effectivement dans une situation qui est globalement défavorable. L'inflation a plutôt tendance à se maîtriser petit à petit, donc ça c'est le bon côté des choses. On n'est pas encore parvenu à cette espèce de cible d'inflation de 2% que vise notamment la BCE, qui est le niveau raisonnable pour que cela fonctionne bien dans l'économie. Vraisemblablement, on devrait y parvenir en 2025, il y a encore du chemin à parcourir. Néanmoins, les tensions inflationnistes ont tendance à se tasser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en se tassant, c'est en partie dû aussi aux actions des banques centrales qui ont fortement resserré leur politique monétaire, qui l'ont normalisée, à la fois en montant de liquidité, mais aussi en taux d'intérêt qui se sont rehaussés fortement. Et évidemment, ça met les économies sous contrainte. Donc en plus de tous ces phénomènes internationaux très défavorables que vous venez de citer, on a également ce niveau élevé de taux d'intérêt, ces tensions inflationnistes qui persistent et qui font que clairement, les anticipations d'activité sont plutôt défavorables pour l'année 2024.
Est-ce qu'après des années où les choses ont quand même beaucoup bougé, on a une économie mondiale, hein, on regarde encore ça de très loin, qui a quand même tendance un petit peu à se poser, ou en tout cas à être moins soumise à des soubresauts tels qu'on les a connus ces 3-4 dernières années, ou est-ce que ça reste tendu ?
Je ne pense pas qu'on puisse le dire ainsi. Elle est plutôt dans la tourmente déjà d'évolutions géostratégiques qui sont profondes, bien sûr la montée de l'Asie, de la Chine qui se renforce, des tensions politiques qui sont extrêmement fortes. Vous l'avez cité, la guerre en Ukraine, maintenant la guerre au Proche-Orient, tous ces facteurs peuvent être extrêmement déstabilisants, sans jamais oublier que le pétrole du monde vient en grande partie du Moyen-Orient, donc des facteurs importants. C'est aussi 2024 une année d'élection dans le monde entier, notamment aux États-Unis, avec une bascule qui pourrait être forte dans un sens ou dans un autre. Donc les perturbations internationales sont très fortes et elles se ressentent bien sûr jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, c'est vrai qu'on ne dresse pas forcément toujours de lien direct entre ce qui se passe dans le monde et en Calédonie, mais voilà, les économies aujourd'hui sont interconnectées et tout agit sur tout, hein, c'est ça qu'il faut rappeler.
Totalement, et notre économie est un peu particulière parce qu'elle est à la fois fortement, je dirais, centrée sur elle-même, et en même temps, parce qu'on est une économie fortement de consommation, d'un petit territoire qui est
insulaire.
Plutôt assez insulaire, qui est assez protégé, qui se protège parfois un petit peu à l'excès, qui n'est pas très ouvert, et en même temps, on est complètement arrimé au monde entier, puisqu'on est une économie qui est exportatrice, avec une spécialité nickel qui est très forte, qui nous rend plus vulnérables encore aux variations internationales. Et puis on a une économie avant tout de consommation, ça veut dire d'importation, et qui là également est très vulnérable aux variations de prix et également aux perturbations du commerce international et du transport international, maritime notamment. Et c'est tout cela qu'on vit depuis quelques années.
Alors justement, intéressons-nous maintenant un peu plus à cette actualité, à cette économie de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'en venir à la situation un peu plus précise de cette fin 2023 et début 2024, il faut regarder quand même quelques années en arrière, parce que ce qui se passe aujourd'hui est aussi la conséquence de ce qu'on a connu ces dernières années, 2020, la crise Covid, 2021, 2022, où on a vu un petit rebond paraître, mais voilà, un rebond de courte durée. Hein.
Un vrai rebond en 2022, effectivement. On l'a estimé à peu près à 3,5% de croissance du PIB, dans le cadre du sérum, ce qui est beaucoup, oui, tout à fait, c'est un beau rebond. Moi, j'appellerais ça un rebond rattrapage, c'est-à-dire que globalement, dans les années qui ont précédé, on a eu une faible dynamique économique, même de la régression économique, hein, une économie en récession globalement depuis la fin 2018, donc 3 années environ. Et puis, plus particulièrement avec la fermeture du territoire, les confinements internes, etc., Il y a eu peu d'investissements, il y a eu un besoin de rattrapage en 2022, avec un an de décalage par rapport au monde entier, et c'est bien réalisé. C'est du rattrapage en partie de consommation, une envie de consommer, mais c'est surtout du rattrapage aussi d'investissement des entreprises qui ne l'avaient pas fait auparavant, avec un peu plus de visibilité dans tous les domaines. C'est du rattrapage aussi dans le domaine immobilier. Ça a été une très forte dynamique immobilière dans l'année 2022. Et il ne faut pas l'oublier, avec un effet un peu d'opportunité, parce que les taux d'intérêt restaient encore très bas à ce moment-là. Donc certains se sont dit, c'est le moment ou jamais. Voilà, mais tout ça a fait un peu feu de paille.
Alors, pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce rebond qui s'est amorcé en 2022 s'est presque inversé en 2023 ?
Je dirais, dans un langage un peu trivial, on est à un retour à la réalité, un peu à la dure réalité des fondamentaux de l'économie calédonienne, de notre environnement. Et donc, si on regarde cela dans une perspective un petit peu plus longue, qu'on regarde la trajectoire de l'économie calédonienne, ça fait plusieurs années qu'on est dans une trajectoire d'une économie en contraction, même en récession, et 2022 fait juste figure d'exception. Et donc, nous revenons en 2023, et somme toute, ça n'a rien d'étonnant, finalement, à ces fondamentaux de l'économie calédonienne, qui se sont même un petit peu renforcés, aggravés. Parce qu'on ne revient pas juste, je dirais, au niveau d'activité de 2019. On enregistre un endettement plus élevé de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, une fragilisation des entreprises, plus endettées elles également, avec la nécessité de rembourser leur PGE maintenant. On enregistre toutes ces tensions du commerce international, une inflation qui fait que, pour bon nombre d'entreprises, il est difficile de répercuter les augmentations de prix. Une fragilisation d'une part de la population, on le voit notamment dans le regard de la grande distribution, on voit que l'activité de consommation se maintient, mais en même temps que le panier moyen de la consommation est plus faible, des achats plus répétés mais plus faibles en montant, et donc tout ça traduit manifestement un changement un petit peu en profondeur du niveau de vie des gens.
Alors ce changement en profondeur, il est dû à quoi, et ce stop finalement dans le rebond qu'on a vécu en 2022, il y a sans doute plusieurs facteurs, bon, vous en avez évoqué certains, on n'a pas encore parlé du nickel. Est-ce qu'aujourd'hui l'économie calédonienne, dont on sait qu'elle est très quand même dépendante du nickel et de ses cours, on voit aussi les problèmes que rencontrent les usines aujourd'hui, est-ce que ça pèse très considérablement sur l'évolution de l'actualité, de l'activité économique en 2023?
Oui, ça pèse et ça pèse lourd. Dans les années Covid, et même dans l'année 2022, on a eu le grand bénéfice finalement d'un niveau de cours internationaux du nickel qui était très favorable. D'une reprise économique.
Heureusement.
Ça a évité d'aggraver notre propre crise interne. Et puis, l'année 2021, dans le monde entier, a été une année de reprise économique, même si la nôtre a été décalée. Donc, on a continué à bénéficier, finalement, d'une situation du nickel assez favorable, mais qui s'est dégradée à nouveau. Et donc, les cours ont beaucoup baissé. Et nous avons des industriels du nickel qui sont extrêmement vulnérables par leur structure de coûts, notamment de l'énergie, mais aussi d'autres éléments de leur structure de coûts, qui font que même en situation très favorable de cours, comme on l'a vécu les années antérieures, ils continuent à perdre de l'argent d'une façon récurrente et à des niveaux qui sont considérables. Et là, leur situation s'est aggravée ces derniers temps, au point d'être sous forte tension, et y compris tension de trésorerie. Ce qui fait qu'on a clairement une grande vulnérabilité du nickel. C'est un atout. En théorie, sur le papier, c'est aujourd'hui un facteur de vulnérabilité qui est très fort, de dépendance qui est très fort et qui vient affecter aussi toute l'économie. Très clairement, quelles que soient les entreprises qui sont prestataires du secteur nickel, elles sont aujourd'hui sous contrainte. Tout comme les LACAFAT, tout comme le sont...
On va y venir, bien sûr.
Voilà. L'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit public ou privé, se trouvent sous contrainte de cette situation.
Alors, avant d'en venir aux conséquences sur les régimes sociaux notamment, on sait qu'il y a des discussions en cours, qu'on parle d'un accord sur la stratégie nickel qui pourrait redonner un peu d'air aux opérateurs miniers en Nouvelle-Calédonie, avec évidemment le soutien probablement de la France qui est inévitable. Là, on est vraiment, on entend beaucoup parler d'état d'urgence. Est-ce qu'on est vraiment dans une urgence sur ce point-là ?
Je le pense également. Je pense que d'abord le rapport de l'IGF qui a été extrêmement bien fait.
Inspection générale des finances.
Très clair, voilà, il est très clair, il traduit bien la situation. Ça a été confirmé, y compris, je crois, à vos micros, par les différentes directions des industriels du nickel. Ils sont effectivement dans une situation d'urgence parce que les années de pertes cumulées les ont rendus très vulnérables, très dépendants aussi de la bonne volonté finalement de leurs actions. actionnaires. Et on voit que les actionnaires, pour différentes raisons, soit se sont lassés, soit ont déjà jeté l'éponge en partant, ça a été le cas de Vallée, soit s'interrogent, ou clairement ne soutiennent plus. Et certains d'entre eux, ou la plupart, ont également, je dirais, une action de stratégie industrielle qui se fait en dehors de la Nouvelle-Calédonie, notamment en Indonésie. Je prends par exemple le cas d'Eramet, qui développe des activités sur le nickel avec un choix qui n'est pas tributaire de la Nouvelle-Calédonie.
Avec un coût notamment de production qui est beaucoup moins élevé en Indonésie qu'en Nouvelle-Calédonie.
Tous les coûts sont moins élevés, les contraintes environnementales sont moins fortes, la proximité des lieux de production et du client, principalement la Chine, est presque immédiate. Les dimensions le sont également. La rapidité de mise en œuvre d'exploitation d'une nouvelle usine, d'investissement de mise en exploitation se compte en quelques mois quand il nous faut des années de rodage ou d'autorisation. L'accès aux autorisations, notamment d'exploitation de permis miniers ou de volume ou d'exportation, est évidemment tout à fait différent des nôtres. Et surtout, les coûts, notamment de l'énergie, n'ont absolument rien à voir parce que les nôtres sont extrêmement pénalisants.
Alors, on sait qu'un certain nombre d'industries métallurgiques en Nouvelle-Calédonie sont sous contraintes fortes. Notamment, il y a des mesures, je crois, certaines sont sous mandat ad hoc ou en procédure de sauvegarde, hein, ce qui induit un certain nombre, évidemment, de contraintes économiques. On voit aussi que certaines d'entre elles l'ont annoncé et d'autres entreprises le font, arrêtent, par exemple, pour préserver leur trésorerie, de payer des cotisations sociales, de payer ce qu'elles doivent à la CAFAT. Est-ce qu'on est là dans un risque d'affaiblissement en domino?
Il me paraît clair que ça traduit bien une situation d'urgence, une situation critique à ce stade-là. La nécessité d'avoir des décisions, bien sûr, économiques, des décisions d'actionnaires, des décisions politiques qui doivent être prises rapidement. On n'a plus le temps d'attendre. Et que, bien évidemment, l'effet domino, je dirais, il s'enregistre, il se constate déjà depuis un certain temps, parce que ça fait déjà du temps, je crois que ça se chiffre même en plus d'un an, notamment je pense à la SLN qui était déjà dans une mesure de cette nature l'an dernier, qui sont amenés à faire des arbitrages, qui sont amenés bien sûr, et c'est de la saine gestion, mais ça induit aussi des contraintes, je dirais, à optimiser le coût de prestation de leurs sous-traitants, des choix qu'ils peuvent être amenés à faire, leur budget dans l'ensemble. Donc ça, c'est, je dirais, une nécessité de bonne gestion de chef d'entreprise. Mais il est clair que ça impacte l'ensemble de l'économie calédonienne. Et bien plus grave encore, lorsqu'on en arrive à ne pas pouvoir payer les cotisations sociales et donc à, finalement, mettre un peu plus en péril une structure de protection sociale qui est déjà extrêmement fragilisée par ses dettes cumulées depuis de nombreuses années et l'absence de solutions pérennes, on arrive à être un petit peu au bout du bout dans tous les domaines. Sachant que la Nouvelle-Calédonie elle-même, en tant que collectivité, est elle-même à un niveau d'endettement tel qu'elle ne peut plus subvenir par ses propres moyens. Et déjà, ces dernières années, elle ne l'a fait que par des prêts externes garantis par l'État ou par des subventions nouvelles apportées par l'État. Donc notre degré de dépendance, on voit, est arrivé à un stade qui est extrêmement critique.
Alors pendant ce temps-là, Yann Caron, les Calédoniens sont eux beaucoup préoccupés évidemment par leur pouvoir d'achat, puisque c'est la vie quotidienne des gens, de savoir un peu ce qu'ils vont pouvoir acheter, dans quelles proportions. Et quand on parle pouvoir d'achat, on parle nécessairement de l'inflation et de l'évolution des prix. Vous l'avez dit, au niveau mondial, au début de cette émission, l'inflation a tendance un petit peu à se stabiliser, ou en tout cas à ralentir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de l'inflation en Nouvelle-Calédonie l'an dernier, et dans quelle situation est-on aujourd'hui en début 2024?
Alors la note est plutôt bonne, même assez saine. Notre ralentissement de l'inflation a été beaucoup plus marqué que partout ailleurs. Il faut bien sûr avoir à l'esprit que l'inflation calédonienne, c'est avant tout une inflation importée, grandement liée à l'énergie, dont les prix ont plutôt eu tendance à s'assagir après une période de très forte tension, notamment liée à la guerre de la Russie en Ukraine. C'est un petit peu derrière nous, tout ça c'est un petit peu réorganisé. On a aussi bien sûr quelques facteurs d'inflation qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie, qui ont été notamment particulièrement forts et sensibles pour le grand public, et le pouvoir d'achat des ménages sur les fruits, sur les légumes, sur tout ce qui est production agricole, qui enregistre le surcoût des intrants, bien sûr, donc de l'inflation importée, mais qui a aussi été très fortement tributaire des conditions climatiques. On voit aujourd'hui, sur les étals des marchés, que beaucoup de prix se sont, au contraire, énormément réduits, presque effondrés pour certains. Ça peut même d'ailleurs arriver à poser un problème de production, surproduction, avec une inadéquation de coûts pour les producteurs, tant ces variations sont très fortes. Mais ce qui est très clair, c'est que c'est plus favorable au panier des ménages. Mmh. Mais voilà, globalement, on a une inflation qui s'est fortement réduite. Le montant global de l'année 2023 devrait être de l'ordre d'à peu près 2%. Ces derniers mois, on a eu des inflations. On a même eu, en octobre, je crois, une inflation négative de moins 0,7. On est remonté un petit peu au-dessus. On va dire qu'on va osciller probablement maintenant aux alentours de entre 0 et 1%, ce qui est même au-dessous de la cible d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Donc, on est plutôt dans une bonne situation.
Alors, on est dans une bonne situation plutôt sur cette question de l'inflation. On s'est aperçu en 2023 que l'emploi s'était plutôt maintenu, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les gens ont des salaires et donc ils peuvent aussi consommer. Ça veut dire qu'on est plutôt dans une bonne période en ce moment.
Il faut le tempérer, parce que déjà l'inflation s'est tassée, elle est revenue à un niveau acceptable.
Mais
les prix
encore.
Ont bien augmenté. Oui. Je veux dire, tant qu'on n'a pas une inflation négative qui rattrape le niveau d'augmentation de prix qu'on a connu auparavant, on a bien un surcoût global sur les prix qui affecte le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, de toute façon, on le prend de plein fouet et on va continuer durablement, certainement, à le prendre. On a, dans une certaine mesure, heureusement, pas trop d'effet de second tour, c'est-à-dire que les négociations salariales ont été raisonnable, on va dire, contenu, mais évidemment, ça affecte en partie le pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. On a un niveau global de consommation qui est relativement satisfaisant. J'ai envie de dire que la consommation soutient l'économie calédonienne. C'est somme toute assez normal, parce qu'on a une économie largement composée de fonctions publiques ou de sociétés d'économie mixte, etc. Tout ça qui fait finalement des revenus qui sont maintenus. Et puis la dynamique de 2022 à redonner un niveau d'emploi aussi un petit peu plus élevé. L'ISEE disait un niveau record, et on est resté à un niveau relativement conséquent, même s'il y a certainement un peu de fragilité là derrière. Donc tout ça, ça maintient du niveau de consommation. Mais malgré tout, on pense qu'on a un certain nombre d'indicateurs, même s'il n'y a pas de vraie évolution d'indicateurs de vulnérabilité. Mais comme je le disais tout à l'heure, on le voit notamment dans la distribution. Sur le panier de la consommation, comme on dit, le panier de la ménagère, la façon de consommer, qui laisse penser qu'il y a des évolutions tout de même en profondeur qui traduisent une fragilisation.
Alors on a parlé, Yann Caron, de la situation internationale, on a parlé des difficultés du nickel, on vient de parler du pouvoir d'achat qui intéresse les Calédoniens, parlons aussi des entreprises et du monde économique en Nouvelle-Calédonie, que vous scrutez aussi régulièrement au travers de ce qu'on appelle l'indice...
L'indicateur du climat des affaires,
du climat des affaires, l'ICA, qui a tendance à fluctuer quand même quasiment d'un trimestre à l'autre.
Oui, mais malheureusement, ça fait 4 trimestres de suite qu'il est orienté à la baisse. Je pense que plus que toute autre chose, c'est un indicateur dont on voit bien la fiabilité dans la longue période. On voit posteriori qu'en définitive, le PIB colle bien à cet indicateur, ou peut-être l'inverse, l'indicateur est bien un chiffre avancé de ce que confirmera le PIB dans un deuxième temps. Et donc effectivement, on a eu, comme je disais tout à l'heure, depuis 2018... une régression de tout cela. On était très en dessous sur cet indicateur de la moyenne de longue période, et ça, c'est l'avis des chefs d'entreprise dans l'enquête que l'on peut faire. 2022 a été une reprise forte. L'indicateur est revenu très au-dessus du niveau de cette longue période, et on l'a bien retrouvé finalement. Ça nous surprenait même de voir à quel point il était supérieur. Et en définitive, le calcul a posteriori d'un taux de croissance du PIB de 3,5 le confirme bien. Et depuis le dernier trimestre 2022, c'est-à-dire tout ça, ça a été à cheval un petit peu. C'était la croissance, le rebond s'est amorcé au dernier trimestre 2021. Il a couvert les 3 premiers trimestres 2022. Et depuis le dernier trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre 2023, je n'ai pas encore le quatrième, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'on sera dans la même tendance, on est dans une tendance de réduction régulière, d'effritement de cet indicateur, ce qui veut dire que le moral des chefs d'entreprise, sur tous les éléments, sur leur niveau d'activité, leur appréciation sur leur niveau d'activité, leur perspective d'investissement, leur prévision d'investissement, leur trésorerie, leur anticipation d'activité globalement est défavorable.
Alors c'est défavorable, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter affectée gravement. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'il y a encore des incertitudes qui pèsent sur l'avenir de Nouvelle-Calédonie, même si certains sont levés. Il y a encore des discussions en cours. On sait que toutes les choses ne sont pas réglées, ne sont pas posées. Est-ce que, malgré cette anxiété, finalement, des chefs d'entreprise, il y a encore en Calédonie tous les ingrédients pour que les choses repartent si jamais il y a des éclaircissements qui arrivent sur le plan institutionnel, notamment ?
Il faut l'espérer. Il faut donner une touche positive, bien sûr, et une touche d'optimisme. Mais le constat actuel, c'est que les chefs d'entreprise ont une faible visibilité. Ils n'ont que de l'incertitude. Et j'ai envie de dire que c'est une des caractéristiques aussi qui explique cette évolution de l'année 2023 par rapport à 2022. 2022, il y a tous les facteurs positifs que nous avons évoqués. Mais il y a eu surtout le référendum qui a rassuré dans un premier temps. On s'est dit, on a une perspective et elle va s'inscrire à horizon 18 mois, comme ça avait été annoncé. Ça rassurait doublement. Deuxièmement, on avait la fin de la crise sanitaire et ça rassurait et ça redonnait de l'espoir. Et puis, on avait une dynamique de reprise économique mondiale qui était favorable. Donc, il y avait toute une... Et puis, on avait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des cours du nickel aussi qui étaient très porteurs.
C'est vrai.
Aujourd'hui, l'ensemble de ces éléments ne sont plus au rendez-vous. Et nous avons également une aggravation des finances publiques pendant toute cette période, des finances publiques, mais aussi de l'endettement des entreprises. Et l'aggravation des finances publiques fait porter une situation plus tendue encore aux entreprises. Puisque globalement, quand l'hôpital, la CAFAT ou d'autres intervenants ou Enercal ne sont pas en capacité de payer ou d'être payés eux-mêmes, Enercal, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça se traduit forcément par des délais de paiement que portent les autres entreprises. Donc ils les fragilisent alors qu'elles sont déjà dans une situation de fragilité avec, je dirais, les effets de la crise Covid, le post-crise Covid qu'il faut continuer à assumer, je l'ai souvent évoqué. Ce qui a été fait dans tout le soutien de la crise Covid, ça a été en partie, une grande partie des aides, a conduit à différer dans le temps le poids de la difficulté qu'on portait à un moment donné.
Et ce poids, on le supporte aujourd'hui.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, enfin la collectivité de la Nouvelle-Calédonie, le porte en partie, c'était pas que ça, mais dans les prêts qui ont été apportés par l'État, garantis par l'AFD. Les entreprises le portent sur leur PGE, tout le monde le porte aujourd'hui, et il faut, face à cette fragilité, à mon avis, de façon indispensable, apporter des facteurs, je dirais, de... favorisant l'économie privée plus que ça ne l'est aujourd'hui.
Alors justement, et ce sera le dernier volet de ce panorama auquel on va se livrer avec vous, et c'est un secteur qui vous intéresse et que vous connaissez particulièrement bien, c'est évidemment le secteur bancaire. On sait aujourd'hui que dans des économies un petit peu tiraillées, contraintes, comme on aime à le dire, parce que c'est un mot qui revient souvent quand on parle de l'économie, les banques ont un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, il y a de l'inquiétude sur les banques calédoniennes où elles jouent ce rôle de régulateur et de soutien de l'économie là où elles peuvent le faire et quand elles peuvent le faire encore.
Je dirais qu'elles font leur boulot. Elles ont bien financé l'économie. Elles ont toujours eu tendance à financer l'économie à un taux de croissance de leur production de crédit et de leurs encours de crédit très supérieur au taux de croissance de l'économie. Ce qui peut interpeller d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment où l'écart peut poser problème. Notamment sur le marché immobilier, avec peut-être des excès sur le marché immobilier. Il y a eu quelques périodes de tension, notamment de liquidité, on le sait bien, en Nouvelle-Calédonie.
Un problème récurrent en Calédonie.
Un déficit structurel de liquidité, c'est-à-dire que les dépôts qui sont faits auprès des banques sont toujours insuffisants parce qu'une part sort de Nouvelle-Calédonie pour différentes raisons et ça s'est un peu accru pendant un temps donné, en fin 2022, début 2023. Ça a accru des tensions de liquidité qui ont effectivement été un petit peu plus délicates à gérer pour les banques. L'IOM a fait ce qu'il fallait en réinjectant une liquidité additionnelle. On a mis deux lignes de crédit de plus que celles que nous mettions, deux lignes de 20 milliards chacune, et on a maintenu toutes les lignes de crédit que nous avions déjà apportées. C'est-à-dire que l'IOM soutient l'économie calédonienne, l'économie aussi de la zone franc-pacifique, à des hauteurs qui sont très importantes. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de l'ordre de 160 milliards, plus que l'on apporte en rescompte, qui est un petit peu différent. Si on a à l'esprit que le PIB de la Nouvelle-Calédonie, sur une année, c'est à peu près 1 000 milliards, que le total des bilans des banques, c'est à peu près le même montant, on voit que ce sont des sommes injectées qui sont très très conséquentes et qui viennent soutenir l'économie. Donc les banques ont les moyens de mener leurs activités. Il faut bien prendre en compte aussi que c'est un métier d'industriel, la banque. Il a été très perturbé par ces augmentations de taux. Faut prendre en compte aussi que les entreprises, comme les particuliers, notamment dans l'immobilier, face à une telle augmentation des taux d'intérêt, peuvent avoir intérêt à faire un arbitrage, à se dire on va attendre un retour à des conditions un petit peu plus favorables avant d'investir. Et c'est un calcul qui est normal et qui est relativement sain. Donc tout de même, un peu moins de demandes de crédit et puis un peu plus de montée du risque, qui peuvent amener également les banques à être vigilantes sur la nature de leurs risques.
Alors ce qui veut dire, et c'est important de le souligner, Yann Caron, qu'une des taux d'intérêt qui se retrouvent haut ou en tout cas en évolution, ce n'est pas forcément bon pour les banques. On pourrait se dire, ah ben, c'est bien, elles prêtent de l'argent, on va leur en rendre beaucoup plus que ce qu'elles ont prêté. Mais en fait, ça a aussi des conséquences peut-être sur les volumes d'activité qu'elles peuvent avoir à gérer.
Oui, la banque, elle collecte des dépôts. Elle peut acheter de l'argent aussi, notamment auprès de l'IOM, et elle fait comme un autre commerçant, finalement, elle le replace et elle prend une marge. Donc, lorsque les taux étaient extrêmement faibles, sa capacité à trouver une marge au monde bancaire était relativement faible. Un peu comme lorsque les cours du nickel sont très défavorables, c'est plus difficile de trouver le moyen de placer sa marge. Donc le fait que les taux aient repris un niveau un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus cohérent dans une longue durée, par rapport au coût de la collecte, par rapport à la courbe des taux, normalement plus le prêt est long, plus les taux devraient être élevés, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Donc les choses se sont un petit peu rétablies. Maintenant, ça se fait aussi progressivement. Et puis dans tout ce jeu-là, il y a aussi, je dirais, le jeu de la concurrence, le jeu des mécaniques un petit peu de l'industrie bancaire, le jeu aussi du taux de l'usure qui fait que les banques ne peuvent répercuter les taux, notamment sur l'immobilier, qu'avec un décalage de temps. Et le taux de l'usure est déterminé en métropole et non pas en Nouvelle-Calédonie, ce qui vient les pénaliser. Donc tout ça vient les affecter. Pour autant, elles font leur travail, elles accompagnent l'économie. Et on voit également que les besoins, notamment des entreprises, ces derniers temps, ça rejoint ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est moins d'investir parce qu'ils ont une assez grande incertitude face à l'avenir, parce que bon nombre d'entre eux ont plutôt investi en rattrapage en 2022. Et c'est plus de privilégier leur trésorerie. Et donc, ça se traduit par plus de besoins de concours d'exploitation, qui effectivement peuvent être un petit peu moins favorables dans la période actuelle avec des taux plus élevés, ce qui veut dire que ça coûte beaucoup plus cher en frais financiers.
Une situation de prudence, globalement, on peut dire ça comme ça.
Oui, d'attentisme aussi. Beaucoup de chefs d'entreprise sont clairement prudents, je dirais même attentistes. Ils veulent avoir de la visibilité et il faut leur en donner. Il faut leur donner également, à mon avis, des conditions d'exploitation plus favorables, de meilleures perspectives. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de subventions, il y a besoin de visibilité, il y a besoin de générer plus de valeur en Nouvelle-Calédonie, et ça me paraît indispensable. Plus de compétences aussi, d'ouvrir le pays à la compétence, parce que c'est indispensable aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yann Caron, de nous avoir éclairé sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie en ce début d'année 2024. On scrutera aussi avec vous et on aura sans doute l'occasion de communiquer de nouveau avec vous et de commenter les derniers indicateurs de l'année 2023 qui nous permettront d'avoir un regard et un panorama complet de cette année 2023. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier invité de cette saison 2024. Voilà, je suis encore resté à l'an dernier des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, une émission qui, comme chaque semaine, évidemment, sera en réécoute disponible sur notre site internet dans
Merci.
Un instant.
Merci à vous et donc rendez-vous probablement au moment où on sortira la synthèse économique de l'année 2023.
Voilà, à très bientôt donc.
Merci.
C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI.
C'est vous l'énergie qui façonnera le monde demain. Votre capacité à le faire dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Avec nous à vos côtés, le futur est en marche. Parce que demain vous appartient. BCI.